Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa kada. Nashindwa na malisi nawe.
Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour sur Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 8 janvier 2025. Dominique et Françoise au micro. Je rapproche le micro, j'ai un peu de mal. Voilà, excusez-moi. Et Sonia, la technique là-bas, qui me dit de l'autre côté de la vitre que oui, ça va aller quand même si j'arrive à tirer sur mon micro. Donc, bah oui, nouvelle année pour notre vieux monde. Alors, nous vous souhaitons pour 2025 un peu moins de guerre, un peu moins d'horreur, un peu plus de joie et même de bonheur. Et surtout, bah oui, la joie de vivre ensemble à Marseille d'abord et partout autour, bien sûr. Vous savez, vieux slogan de notre jeunesse, vivons ensemble avec nos différences. Et là, oui, en référence à l'actualité politique et culturelle, vivons ensemble avec nos différences. N'hésite pas à vivre nos différences. Deux mots de cette actualité avant d'en venir à notre livre du jour. Deux mots sur ce qui m'a paru être un genre de collision de faits d'actualité. Jean-Marie Le Pen est mort et on sort en même temps au cinéma le film de Leni Riefenstahl, enfin pas de, sur Leni Riefenstahl, le film documentaire sur Leni Riefenstahl qui était donc la cinéaste du nazisme, la cinéaste du Troisième Reich. Alors, Jean-Marie Le Pen est mort, j'entrerai pas dans la polémique sur le fait de s'en réjouir ou pas. Pour moi, c'est complètement un faux problème. Mais par contre, oui, dénoncer ses idées et continuer à lutter contre ses idées et continuer à lutter contre, hélas, ceux ou celles qui proclament encore les idées de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était un vrai raciste, un vrai antisémite. Un vrai islamophobe, un vrai antiféministe, enfin bref, un vrai néo-nazi. Et donc, ça montre contre quoi il faut lutter, en effet, et contre quoi il faut se mobiliser. Et coïncidence, disais-je, de cette sortie cinématographique du film documentaire sur Leni Riefenstahl, la cinéaste du Troisième Reich, parce que les images qu'on voit en tant qu'images d'archives des films qu'elle a réalisés, eh ben, c'est une fois de plus totalement sidérant et ça montre bien ce désir et cette volonté du Troisième Reich de construire un pays et une race pure où il n'y a absolument plus d'individualité, mais où au contraire, on a l'impression que les gens qui sont sur les pellicules, enfin qu'on voit dans les films, sont des clones d'un modèle complètement déshumanisé, des clones de ce meilleur des mondes nazi. Où l'horreur pure fait que, bah oui, on produit, entre guillemets, un modèle d'homme qui aurait pu être ce modèle effectivement reproduit et reproductible. Et c'est pas mieux quand on pense au Premier ministre indien, Modi, qui cherche à faire une Inde indienne, une Inde hindoue, une Inde qui parle hindi, en écartant et en évacuant les autres religions, les autres langues. Donc finalement, je sais pas comment on peut dire, le refus de la différence, c'est toujours l'entrée vers le racisme, le nazisme, enfin tout ce qu'on veut et tout ce qu'il faut effectivement combattre. Donc je reviens là-dessus, vivons ensemble avec nos différences, vivons et luttons contre ceux qui ne veulent pas des différences. sortons, rencontrons-nous dans les espaces publics, dans les cinémas, dans les théâtres, dans les bibliothèques. Écoutons nos radios libres, bien sûr, lisons aussi. Et par exemple, cette semaine, ben oui, je vais lire avec Françoise des extraits d'un livre totalement différent, justement, par sa forme et son contenu. Alors, c'est un livre qui s'appelle « La rage entre les dents », sous-titré « Un dix cris pour nos morts » de Seuf El-Badawi. Et c'est paru aux éditions Vent d'ailleurs, les éditions Vent d'ailleurs qui ont été créées à Fort-de-France en 1994 et qui sont maintenant à La Roque-d'Anthéron. Ce sont nos voisins là, de La Roque-d'Anthéron et ils continuent à faire des publications vraiment passionnantes et vraiment différentes, je le disais. Donc allez voir sur Internet le catalogue des publications de Vent d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Et puis donc, pour aujourd'hui, nous allons lire Seuf El-Badawi avec La rage entre les dents. Alors, pourquoi je disais que c'était un livre différent ? Bah parce que, alors déjà, son auteur, c'est un homme assez passionnant. Il est né en 1970, donc il n'est pas encore trop vieux, mais c'est quelqu'un de complètement pluriculturel et pluriactiviste, je dirais. Il a été journaliste, par exemple, à RFI. Il est auteur, donc, auteur d'essais, de poésie, de textes de théâtre. Il est metteur en scène et comédien de théâtre. Il dirige une compagnie, il s'occupe aussi d'un groupe de musique, il est musicien et il s'occupe donc de la production à la fois de sa compagnie théâtrale et de son groupe de musique. Il organise des tournées pratiquement dans le monde entier avec des textes qu'il a écrits et mis en scène. Et puis il dirige un lieu d'agitation citoyenne et expérimentale à Moroni, donc... sur la Grande Comore. Et il voyage beaucoup, bien sûr. Il est venu à Marseille. Il a rencontré Salim Atoubou, qui à Marseille a aussi été un des agitateurs, je dirais, de la culture comorienne et de l'ouverture de cette culture comorienne. Maintenant, son nom est resté à la médiathèque Nord, mais je pense qu'il faut toujours avoir en mémoire et aux côtés de nos camarades comoriens pour les soutenir d'une part et puis aussi diffuser cette culture comorienne qui n'est peut-être pas toujours diffusée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Alors, je parlais de nos camarades comoriens. Bah oui, Seuf El-Badawi, c'est vraiment un camarade, en ce sens que il a écrit, comme je vous le disais, des textes poétiques et des textes de théâtre qui sont vraiment engagés. Et ce qu'on va vous lire, c'est un genre de long poème d'écrit pour nos morts. D'écrit, c'est un poème, en effet, une complainte, mais c'est aussi une prière et puis très souvent aussi une imprécation, c'est-à-dire une prière pour que les morts reposent en paix, mais une imprécation pour que les morts ne meurent plus de cette façon. Donc, quand on parle des Comores, bien sûr, dans l'actualité récente, on pense à ce cyclone qui a dévasté l'île de Mayotte. Mais la vie aux Comores, elle est toujours difficile. Sur les Comores indépendantes, elle est difficile parce que l'économie est, disons, dans une mauvaise situation. Et puis, elle est difficile à Mayotte même parce que... il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de personnes qui viennent justement des autres Comores, qui essayent de s'installer et qui s'installent dans des conditions précaires, dans des conditions donc de précarité et de pauvreté tout à fait regrettables. Et le gouvernement français qui régit donc Mayotte, et en tant que on pourrait dire pouvoir colonial, fait tout pour éviter, au contraire, l'installation d'autres Comoriens à Mayotte depuis le décret Balladur, en particulier de 1995, qui interdit l'établissement des autres Comoriens à Mayotte. Donc finalement, Les migrants inter-îles s'installent dans, on l'a vu d'ailleurs avec les conséquences du cyclone, s'installent dans des conditions souvent tout à fait précaires. Et à ces conditions de vie précaires, bah, s'ajoutent les périls du voyage, périls de la navigation entre les îles sur des bateaux qui ne sont pas faits pour ça, parce que ce sont souvent les bateaux des pêcheurs, les bateaux donc de pêche côtière avec lesquels ils passent des détroits entre les îles qui sont souvent agités, hein, l'océan Indien. À cet endroit-là, c'est aussi des grandes vagues, des courants. Et donc, c'est des navigations très difficiles pour aller d'une île à l'autre tout en essayant de se cacher, en essayant de parvenir à Mayotte, en échappant à la police, à l'armée, etc. Donc, on a rediffusé, je crois, pendant notre absence, là, pendant les congés, on a rediffusé la lecture qu'on avait faite du livre de Natacha, j'ai oublié le nom de Natacha, comment s'appelle Natacha ? Natacha Apana. Donc, le livre de Natacha Apana, Tropique de la violence, qui justement était fondé sur les conditions de vie très difficiles à Mayotte des immigrés récents et en particulier des jeunes. De ces jeunes qui, faute de pouvoir être inscrits dans une scolarité cohérente, sont quelquefois à la dérive et vivent vraiment dans une extrême pauvreté. Et puis, évidemment, Natacha Apana parlait des conditions difficiles de traverser entre les îles, dans les Kwassa, ces bateaux qui sont les bateaux surchargés de migrants qui essayent de parvenir à Mayotte en provenance des autres Comores. Et ces traversées donc sur les Kwassa et les morts que les naufrages entraînent bien souvent, c'est le point de départ de Seuf al-Badawi dans son livre « Un dix cris pour nos morts, la rage entre les dents ». Puisque en fait, il part dans son grand poème de la mort d'un cousin ou de la mort de ceux qui étaient avec ce cousin sur un Kwassa qui a fait naufrage. Et ensuite, ben, à propos de cette mort et à partir de cette mort, dirais-je, de gens qui traversent de Domoni à Mayotte, et qui éventuellement font naufrage. À partir de cette mort, il revient sur les conditions de vie difficiles dans les Comores, les conditions de vie difficiles à Mayotte, et sur aussi ce néocolonialisme français qui impose des conditions de vie, là encore, véritablement précaires à ceux qui arrivent. Puisqu'évidemment, on fait tout pour les décourager de s'installer. Alors, je vais vous lire le genre d'introduction du texte. Et puis ensuite, Françoise et moi, nous alternerons dans la lecture. Vous verrez que... Alors, on vous demandera de nous excuser. C'est un petit peu difficile dans la mesure où l'auteur, Seuf al-Badawi, alterne des parties de texte en français et des parties de texte en comorien. J'ai pas voulu écorcher le comorien, je me sentais pas du tout de taille à vous lire des textes en comorien. Il aurait fallu qu'on demande là à nos camarades de studio, Kader et autres, de venir nous aider, mais c'est un peu difficile à organiser. Donc on va vous lire seulement les parties écrites en français. Et de temps en temps, il y aura des petits blancs, parce que dans la lecture, quand on passe les parties écrites en comorien, évidemment, passer d'une ligne à l'autre, et même pas, puisque si vous aviez le livre sous les yeux comme moi, vous verriez que Seuf al-Badawi, dans son dicri, dans son grand poème, dans sa grande complainte, il écrit ce que j'appellerais un poème en prose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à la ligne, il n'y a pas de ponctuation, c'est vraiment un grand texte d'un seul tenant dans lequel il faut bien trouver des respirations de temps en temps. Mais donc, on est désolé, de temps en temps, nous manquerons une respiration puisque c'est pas commode à lire. Mais alors, dit-il, et moi avec lui, ouvrez bien l'oreille, retenez bien votre souffle. D'une rive à l'autre, le désastre en partage. Cette nuit, ils ont annoncé la mort d'un des miens, mon cousin, happé par la vague, broyé par les flots. Ouvrez bien l'oreille, vorace, l'océan s'est rappelé à nous comme à son habitude depuis qu'existe ce mur de haine, ce mur entre les îles, ce mur dans l'océan. Vous auriez dû être là. Nous n'avons pas hurlé, pas crié, pas même jeté une larme dans l'arrière-cour de l'enceinte familiale. Le mutisme d'une mère au sortir du sortilège, visage lacéré par le poids de la jactance officielle. Ma tante affligée n'aura que nos bras noués pour pleurer un fils disparu. Disparu sur les ondes d'une radio de quartier, un speaker égrenant le long chapelet des sinistrés. Il répète inlassablement, il répète les noms. Où sont terrés les pères de famille, les pères de la nouvelle nation en gestation. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien demandé au ciel imperturbable, sauf le droit de mourir en paix sur une terre de croyants, et non pas dans l'onde. La nouvelle est rude. 98 noms passés par-dessus bord. Ils ont péri dans les flots. 98 noms qui s'épellent comme autant de lames traversant ce corps d'insularité qui est nôtre. Les uns sur les autres, ils étaient tassés comme de la chair en esclavage, corps à corps de destin suspendu sur deux frêles embarcations de briquet de broc. En provenance de Domonie, ils se sont éteints au terme d'une course effrénée entre les radars surexcités de la pointe nord et la flottille agitée des Sorodars. Chant des sirènes éteintes sur un bras de mer d'à peine 70 kilomètres, hélas. D'un côté, les gardiens d'une frontière d'usurpation, de l'autre, les oubliés d'une nation en déshérence. 98 noms, avec des enfants en bas âge, des femmes enceintes, des hommes, qui essayaient de rejoindre leurs enfants ou leurs petits-enfants pour une fête de famille, par exemple. 98 personnes passées par-dessus bord. Comment nous en emparer? Comment pleurer? Des 98 noms, des inconscients, oui, mais pour défier l'impensable. Où étais-tu, Seigneur? Sur quel rivage du nord ou du sud somnolais-tu quand ils ont fait naufrage? C'était écrit? C'était écrit dans le livre des sortilèges qu'il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas ou qui feint de ne pas voir. C'était écrit, Dieu, en cette nuit, pour une raison que je ne m'explique pas. Et je ne m'explique pas, je ne ferme pas l'œil. 98 noms.
J'ai dit que l'on me brûle et que l'on me livre cendre morte à l'ombre du ventre des fées. Comme ces restes d'hommes qui par milliers se noient sous le lagon au crépuscule d'un matin sans brume. Je tiens à en parler avant que les gratte-papiers au service de qui vous savez n'entame un soliloque sur le crime de la migration. Le cousin qui a chaviré en cette nuit aurait pu mourir, bêtement, d'un trop rare cancer du myocarde mal soigné, en bas de chez lui. Le cousin qui a chaviré, parlons-en, lui qui n'a pas lu le grand livre des sacrilèges. Il s'est laissé prendre au piège de la migration, Jahazi, Ye, Tsohora, Jahazi, le fossé qui nous ramène au monde se creuse dans la terreur de nos légendes. Les gens du Boutre, et j'en suis, pensent que le bonheur se poursuit d'une rive à l'autre au prix du renoncement. Or, il est un chemin que l'on n'emprunte qu'une fois dans une vie, plutôt en période de houle, lorsqu'on est persuadé de courir le diable sans éternité possible. Sur un bout de terre envasé, pendant que les anges, eux, se gavent de psalmodies, de l'autre côté du couloir divin, dans l'apaisement et la sérénité, d'un au-delà repeint aux couleurs du Land of Loose en cage. Ce chemin, que l'on n'emprunte qu'une fois dans une vie, mon cousin l'a pris cette nuit, et il était loin de penser que les limites imposées du rivage fraîchement redessiné par le maître des possédants lui reprendraient de fait son droit à la vie. Erreur fatale. La faute à qui? À pas de chance? en l'absence de cohérence dans les discours putassiers de nos petits hommes à la tête de l'État moribond. Je ramène tout à pas de chance depuis l'enfance. Sinon, comment saurais-je expliquer la nature du désastre en cours, en étant raccord avec ces démons de la résignation qui formatent nos rituels de vie en quitte de barbarie. Une baliverne d'usage. Au premier nuage d'apaisement, il est dit que les lève-tôt voudront fuir leurs ombres en terre conquise, mais qui apprécie de sombrer sous l'eau apprend d'abord à nager tel un poisson de roche effrayé par la rumeur du monde. Mon cousin, lui, ne savait pas nager. Il ne pouvait pas s'en sortir. Pour que son rêve, Kurani, prenne forme dans le récit, la longue traversée était à prévoir sur les lignes d'une main innocente au mi-temps de la nuit. Le cousin, pour ce faire, a été voir un moine du quartier expert en sciences d'ésotérisme. L'ultime migration des consciences sans répit exige que l'on scrute le ciel pour tracer le chemin du retour. En proie au doute, le cousin misait sans réfléchir sur le mythe des destins retournés pour se refaire une santé ad vitam. L'avenir aux audacieux, disait grand-père. Mais le seigneur des inconscients en a décidé autrement cette nuit. En plongeant dans le ventre du Kwassa, le cousin n'a pas ailleurs écouté personne, Rejetant tout conseil de nature à bousculer ses certitudes établies sur la ligne de départ. Naître sous ces tropiques-ci vous condamne un homme à mourir sur un manège à roulette russe. Le cousin en était persuadé, donc ne s'en inquiétait nullement. Avait-il le choix? Pouvait-il en être autrement? Pour quiconque ne sait se sait sur un archipel au visage d'Hécati, en cette mer archi-troublée par ceux qui tiennent la géographie des temps dissolus en haleine, la réalité ne se vit que tordue ou rompue, le cours des valeurs humaines étant en chute libre au CAC 40 des puissances dévastatrices. Nous n'irons pas discuter en ces lieux de la banqueroute partout annoncée. Il m'est permis cependant de demander ce que vous en déduisez, vous qui savez comment se noie un peuple avec une histoire balisée à coups de non-dits. Vous, connaissant, vous aurez certainement parcouru une à une les pages grises de nos vies submergées en pays de lune. Qu'en avez-vous retenu? Pouvait-il en être autrement de mon cousin? Y avait-il une chance, une seule, pour qu'il comprenne un jour que l'on ne fait pas son ombre? Jamais.
Oui, donc, Seif el-Badawi fait le lien entre la mort de son cousin et puis la situation des habitants des Comores. Et il revient à partir de ce qu'on va lire ensuite sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus général ou théorique. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce long poème, c'est les allers-retours, je dirais, entre les situations individuelles et les situations générales et les accusations donc, que se fait le Badawi profère contre le pouvoir colonial français et contre les responsables qui, justement, par leur irresponsabilité, sont finalement ceux à qui on peut imputer la mort de ces naufragés. Lent délitement d'un archipel en proie au déni. Il fut un temps, semble-t-il, où l'on devisait avec la mort en personne. Mais le moualim du quartier prétend qu'il est encore possible de la voir traverser nos rêves de nuit. Aux premières notes de la valse des astres éteints, voilà pourquoi j'attends, assis tranquillement sur ce bout de bois, j'attends de pouvoir lui dire à la mort qu'elle a eu tort d'arracher autant de vie, sans un mot d'excuse à nous, sans un mot d'excuse à son Seigneur. Jusqu'à quand allons-nous les regarder, ceux qui s'enfoncent dans l'eau, la rage entre les dents, sans rien opposer à l'impensable? Quel crime avons-nous commis? Quel crime pour mériter un tel sort? Qu'il nous le dise, lui, ou qu'ils nous le disent, eux, les puissants. Où sommes-nous? où sommes-nous maintenant ? J'aurais voulu rendre hommage, j'aurais voulu rendre un dernier hommage à ces morts, en invoquant son nom, en invoquant leur nom, autant de fois qu'il y a eu de victimes en ces eaux. C'est un dicri, oui, c'est un dicri de pleurs, mais aussi un dicri de rage, l'illusion en moins. Une chose après l'autre, oui. Ceux qui prétendent parler en son nom, ceux qui prétendent parler en leur nom, ils ont omis de nous dire qu'ils pouvaient être oublieux du cadavre des hommes, ils pouvaient être oublieux du calvaire des hommes aussi. À moins qu'ils ne considèrent eux-mêmes que la loi de Dieu a changé de camp. À moins qu'ils ne considèrent qu'il faut honorer les puissances capitalistes, les puissances dévastatrices, martyrisant le monde. Finalement, Dieu, en leur bouche, ne serait plus qu'injustice et oubli. Mais alors, vers qui se tourner ? Vers qui me tourner sur ce tapis de prière ? Moi qui ai avalé tant de psaumes depuis l'enfance, à voir mon peuple se mourir ainsi, à petit feu, j'en déduis que le Seigneur des inconscients a ses morts, j'en déduis que la mort ne rend pas indigne. Les nôtres s'oublieraient plus facilement s'ils étaient nés sur un autre rivage et plus oubliés du monde. En cette terre, les hommes meurent, tués par la puissance dévastatrice du capitalisme, sans avoir eux-mêmes commis de crimes. Ils meurent en mer, sous le regard bègue de leurs semblables, sous le regard de Dieu, mais ils tombent dans l'oubli.
Ainsi est ma conscience à nu dans l'ultime récit du rescapé. Ce mur dont je vous parle, érigé en oseaux par la lointaine République de Paris, est le résultat d'une politique de désespérance remontant aux premiers émois de la colonie. Dans 5 siècles, on en paiera encore la facture. Les bombes à retardement ont ceci de perturbant qu'elles finissent toujours par nous endormir au son des tic-tac d'une horloge en attente d'explosion. Les équations en politique sur une terre d'occupation sont souvent synonymes d'horreur. Des drames insurmontables, un fait avéré dans l'histoire, la grande, car la comptabilité hasardeuse des temps de déchéance a ses limites que seule la raison du plus fort explique. Le calcul en politique est une mécanique douteuse, sinueuse, qui complexifie le mouvement d'oppression dans la gestion des hommes en territoire occupé. Saviez-vous que les Nations Unies s'y sont reprises 20 fois en résolution pour figer notre désarroi dans le marbre du juste ? Nous sommes un peuple encore sous tutelle. Nous, les gens du bout, ne jamais s'étonner de nos quotidiens désarticulés.
Les gens du boutre, le boutre c'est le bateau, donc c'est, le boutre c'est le nom des bateaux comme en Kouassa, enfin comme le Kouassa en Comorien. Donc les gens du Boutre, comme les îles de Lune, comme le pays de Lune, c'est les Comores, quand Seuf el-Badawi en parle.
Ne jamais s'étonner de nos quotidiens désarticulés, car qui ment à qui ? Et pourquoi nous sombrons dans un délire dès lors qu'il s'agit de raconter ce pays qui se meurt, le nôtre ? Et dire que certains s'inventent des instants de déréliction pour mendier une existence auprès des puissances dévastatrices. Si nous risquions à l'honnêteté, ne serait-ce qu'une fois, nous ne pourrions discuter de l'essentiel, ces milliers de corps qui s'en vont sous l'eau, ce visa stupide imposé à nos consciences par une nation qui nous est foncièrement étrangère. Nous ne le pourrions pas discuter de l'inanité d'un drame, d'un crime orchestré sur un territoire aussi limité, sans interroger la capacité du maître des possédants à anéantir comme par inadvertance un pays, un peuple, une histoire, notre histoire, au vu et au su de tous. Nous nous employons à courir les impasses du ciel au nom du destin commun, que l'on annonce déjà fourbu, rompu dans les pratiques discursives établies par l'occupant lui-même. Mais combien sont-ils à tenter le diable en tête de course pour saisir le sens de ce qui nous arrive ? Le monde des possédants se veut sans pitié pour les gens du boutre. Nous sommes les gens du boutre et l'ivresse en politique peut nous brûler les ailes en un rien de temps. Mieux vaut 100 000 fois s'en méfier si l'on veut éviter à l'oiseau en cage le châtiment suprême. Se laisser niangagner le cerveau par les promesses débiles de ceux qui s'imaginent le seigneur des inconscients en distributeur de faux billets à l'heure des krachs boursiers sans nation à défendre. Les équations politiques à mécanique douteuse, sinueuse, sont un exercice nécessairement contre-indiqué aux citoyens déplumés d'un pays déconstruit en période de houle. Elles sont le signe d'un drame tissé dans les arrière-cours des puissances dévastatrices depuis un matin de 1841. En ce qui nous concerne, vous voyez bien où nous mènent ces récits d'absurdité et de défaite surfaite. Avec cette histoire de migration sauvage en sa propre terre, peut-on être étranger ou clandestin sur la terre de ses aïeux? Et j'ajoute ceci. J'ai été à cette fameuse liturgie où les oiseaux exigèrent que leur sentiment d'extase soit purifié par un bain de sang aux odeurs de fosses putrides. Ils se défendaient tous d'une maïotique swahiliste, très oui. À la mode à l'époque.
Swahili, c'est un des noms propres, des noms de famille les plus répandus aux Comores. En particulier, le ministre actuel des Outre-mer s'appelle Monsieur Swahili. Et il y a eu beaucoup d'écrivains et d'intellectuels comoriens qui s'appellent Swahili. Donc, effectivement, il y en a un peu des deux côtés. Et là, le fait d'accuser les swahilistes, on ne sait pas trop qui Saïf el-Badawi accuse, mais je pense que les gens qui connaissent mieux les Comores sauront exactement de quoi il est question.
Mise sous scellé par des chiens de guerre spécialement dépêchés depuis la lointaine République de Paris. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu s'exprimer la moindre réticence à l'idée que l'on pouvait nous vendre tout et n'importe quoi dans cette relation de dupe. L'occupant lui-même entretient le doute dans l'intimité de nos cases. L'établissement d'un visa au caractère outrancier entre deux cases d'une même fratrie pouvait par exemple nous poser problème. Nous n'avons rien trouvé à y redire. Le prince des oiseaux lui-même, notre prince des oiseaux national, au jour, dit-il, s'imagina le pire comme une bénédiction divine. Les hommes, confia-t-il à l'ensemble de ses sujets réunis sur la grande place, sont poussière. Ils meurent, s'en vont, et puis l'oubli. Pourquoi s'en soucier ?
Donc l'oubli ou la mort, pourquoi s'en soucier ? Avant de continuer, on va écouter un peu de musique, de la musique d'ailleurs de Saïf el-Badawi avec son groupe, le groupe Moisiwak. Avec un air qui s'appelle Comoro, précisément.
Pepe peza bunduki zafuba monkodoni Hari kosha wiri, hariri sujudi Bahari jemzungu mjizi hanamudu Anjabu na mujuza, le wondora zijua Ukefahamu elona, surwa za kikabila Utijitutuze, weko usoni mwao Subuti uambie, talawe mkulu Komoro Harisi wale jevu, wahazi zanzamana Na ukarizo yebure ya hea ritawala Na nami wapo wana, emana ya risama Jema za lohamgu, haundeze faida Harisi masikini, kuhinduri londisho Tigashi tithabu, maliza ho wakati Kashi la tundere, fumbura rizingiza Thahabu ya tundere, vunyanya la masiwa Kairi huu kufa Hanare kari huza Umwili wa Komoro Ke una biashara
Komoro Kibeberu kaino sikinia Watsiri hadae baizuri zichua Siasa kibeberu kaino sikinia Watsiri hadae baizuri zichua Siasa kibeberu kaino sikinia Watsiri hadae baizuri zichua Siasa kibeberu kaino sikinia
C'était donc le groupe de Sefel Badawi, Moisi Iwak, et on va reprendre la lecture de son dicri pour nos morts, La rage entre les dents. Ce dicri, donc, on l'a vu tout à l'heure, édité aux éditions Vendailleurs de la Roque d'Enterron. Vérité, vérité de vaincu, mais vérité quand même. Dans cet immense cortège de fantômes sous l'eau, mon cousin, certes, a le souffle décharné de ces cadavres sans sépulture amassés le long des quais des absences, mais je reconnais là l'immense brisure de nos rêves d'outre-monde. Ce vaste océan des mers du Sud ne taira pas leur nom pour autant. Ces morts ont le visage de nos manquements au quotidien de notre pays. La lave éconduite agite nos consciences en feu sous le lagon prétendu du monde des taiseux. Nous, Jean Dubutre, nous n'avons pas été filles du renoncement en archipel. Nous n'avons pas toujours eu le regard éteint du cadavre debout. Nous n'avons pas toujours été ces soldats de la déchéance programmée. Nous sommes là et nous ne sommes pas seuls. Les écritures de la transhumance nous tiennent. Ces morts qui nous acculent au mur sans façon exige que l'on nomme l'horreur faite par la lointaine République de Paris en nos eaux. Et entre nous s'immiscent les langues, les autres langues, pour dire et redire en cette nuit, après l'aube, la renaissance, ce qui ramène à la vie. Il en est qui prétendent dompter la folie de l'errance à force de fomenter du déni sous cap. Mais l'énigme de la fin ne connaît point d'achèvement. Qui sait à quoi ressemble demain le songe des enturbanés courant le long de nos grèves endeuillées? Que l'on se noie par des vents de Urci ou des vents de Kashkazi, l'interrogation demeure tragique. L'interrogation sous le soleil de midi, l'interrogation sous la lune. La probabilité, non, ce n'est pas une science exacte. Nul n'imagine à quel récif sacré se raccroche la malédiction des gens du Boutre. Ainsi faisons-nous face au remake figé de la 99e litanie des vaincus, déployée sous force de partitions en multiples fragments dûment réécrits par la force du maître des possédants. S'il est dit quelque part dans le livre des sacrilèges que le sort des hommes serait de finir simples passants en des lieux de vestiges, il n'a jamais été dit que nous mourrions de la main du semblable au creux d'une mémoire ensevelie en pays de lune. De la quiétude incertaine des temps, des devinettes absolues, je retiens donc cette maxime, à savoir que la nuit ne nous absout pas de tous nos désirs. Et sur cette seule foi des martyrs, dont je tairai les noms pour éviter de brouiller les pistes, je repère l'impossibilité d'une équation stellaire sur un bras de mer englouti par les vents du nord, par les vents du sud. Témoigner de la douceur des crépuscules triomphants ne préserve pas du désarroi. Et si le cercle de lune s'est fendu en quatre pour nous abstraire de la prophétie des colporteurs, alors oui, nageons, alors oui, naufrageons, mais essayons de survivre. Je n'oublie surtout pas les prophéties, non, je n'oublie surtout pas nos consciences broyées par les temps de fourvoiement. Nous devons trouver chaussures à nos pieds sur une map monde de toile immonde. Et nous devons aussi singer l'ennemi dans la puanteur interdite de ses entrailles. Le miroir éteint de nos disparus se joue du réel. Ainsi, chaque fois que la flottille rapide des gardes-chiumes poursuit les quasas, nous sommes là, nous résistons. Nous sommes des résistants face aux usurpateurs patentés. La sirène stridente, ou les sirènes de pointe, les sirènes de lune. Nos prières apparaissent vaines et sans écho face aux boutres du maître sur nos boutres de hasard. Sans doute que dans ce noir silence de la lave et conduite, vérité un jour se tiendra droite.
Tant de choses qui n'ont pas été dites, racontées ou circonscrites, dans la logique même de ceux qui tiennent la plume du big feuilleton des oubliés du Land of Lose, tant de choses sur lesquelles nous n'aurons guère le temps de deviser ici, durant ce très court laps de temps où ma conscience s'invite à pas de loup dans une complainte de Kwasa, le maître des possédants, et je ne le connais que trop. Joue dans nos eaux en uniforme d'opérette la geste sacralisée des Foo Fighters, déguisés en princes des tropiques, sur frégates rapides pour Monopoly gagnant, avec des milliers de cris angoissés qui s'étouffent en eau profonde, devant un parterre de poissons carnivores au visage débile et sans souci. Sa part de destin sous l'eau bouffe qui peut. À la nuit tombée, les cris redoubleront d'intensité et à la fin de l'envoi, les perdants se toucheront dans l'outre-monde. Tant pis. Ne souhaite guère se fendre la conscience en deux contre un mensonge à big diffusion sur la grande toile. La mauvaise foi des marchands de paroles dans les banques et les multinationales des puissances dévastatrices n'émeut plus en cette terre. Cette propagande en habit de deuil au cœur même de nos petites maisons en papier, nous aide à désapprendre les mystères d'un réel surchargé. Qu'une puissance dévastatrice tricote en ce moment même des éléments d'histoire préfabriqués en toc pour sauver son règne d'un déluge annoncé n'est un secret pour personne. Dans le grand livre des sacrilèges, il est dit toutefois que jamais nous ne deviendrons ce que nous pensons n'avoir jamais été. Il y est également question des mots du plus fort qui seuls ne suffisent pas à la perte du sens. Les kamikazes en pays conquis ne peuvent cependant être légions, car qui mettrait fin sinon à la malédiction du boutre et au mécanisme implacable du maître des possédants ? Nous ne pouvons tous être les jouets de l'apocalypse sur une terre de cadavres debout, en lévitation sur l'eau. Une sentence d'obscurité en plein visage, soleil au zénith. Nous sommes prêcheurs de lune, experts en intégrisme de la survie. Nul mirage que celui que nous aurons vu en ces eaux souillées ne nous éblouira avant longtemps. L'angoisse dans l'esprit du juste embrouille les consciences interdites sans avoir besoin du fouet ni du souvenir de la plantation. Elle achève de griller nos certitudes d'âmes effarées sur la grande place. Car ceux qui meurent sous l'eau, entre cette île et celle dont on a changé le destin pour effacer la trace de nos héritages séculaires, ne peuvent plus converser qu'à travers le mutisme des poissons qui se signent au naufrage des Kwasa.
Oui, Françoise a des petits soucis. Les conciliabules sans fin tenues le long des quais des absences, nous n'y pouvons rien non plus. À se demander qui a menti sur qui pour que l'on accepte de sacrifier autant de vies, sans égard au crépuscule un matin sans brume, dans le pays de la lune. Nous qui pensons que Dieu se courbe au crépuscule à force de porter nos destins brisés sur son dos, il n'est dit nulle part que cette puanteur de cadavres sous l'eau n'est supportable que pour nous, les gens du boutre. Maïotique swahiliste sous le calot, des jeunes têtes, de graves têtes, apprécieraient de pouvoir surprendre un jour leur batracien en parade nuptiale au pied de la falaise sourde. Mais la lointaine République de Paris veille au grain. Car elle a bien saisi le message en code morse du dernier plan d'exorcisme pour surjouer sur cette place. Elle anticipe les événements à venir. Au nom de ceux qui s'enfoncent sous l'eau. Des hommes en uniforme aux couleurs nationales seront là demain à l'aube pour mater toute trace de rébellion en excroissance contrôlée, car il n'est plus de place en ces lieux pour les transfuges annoncés. En cas de non-respect de la consigne édictée par les petits d'hommes à la tête de l'État moribond, au nom de l'amitié que nous voue cet ennemi héréditaire dont on ne prononce jamais le nom, par peur de sombrer dans l'extrémisme. Ces uniformes iront salir en beauté la mémoire de tout un peuple ayant sombré dans les eaux de morne lune. En sonnant la reddition finale au rythme des kouassas qui chavirent. La réalité dépasse la fiction. Voilà qu'une montagne de cadavres sans sépulture me ramène du visage assombri du monde aux entrailles pourries de la chouette, au santal frelaté, où le mystère du courant à rebours engage la rivière à noyer les esprits entrés en rébellion dans le noir, rocaille d'une terre de lune aux yeux de brume. Même si les chiens de la reddition sont encore là à remuer la queue autour d'un cadavre de pays, ma colère en bandoulière n'ira pas courir les toits. Je me refuse au syndrome du fait accompli, tel que professé par le vaincu de la dernière saignée. Au nom des justes, soyons-le, sachons-le, j'aurai des tas de choses à signifier au Seigneur des inconscients. Ben moi aussi, j'ai un chat dans la gorge, c'est les poissons qui nous donnent les chats dans la gorge. Et je le sais, moi, je le sais que je vous conte là une longue histoire de 10 000 pages mal retranscrites, sans compter ni recompter les détails qui fâchent. Mais je vous crois assez habile en perversion pour vous engouffrer sans mépris ni déni en nos mémoires fracturées. Les faits sont là, têtus et coriaces, au premier cri désingué des justes en déroute. Nos histoires promènent leur quota d'opacité en tôle rafistolée pour 3 minutes d'éclaircie. Vous aurez alors le droit de poser vos questions. Ils étaient noirs, ils étaient blancs. Ils erraient sur un damier servant à reculer le pays dans un béton colonial. Leur gourou au drôle de nom d'animal. Leur gourou recevant des ordres depuis les caves de la lointaine République de Paris était au mieux, mais oui, au mieux entre eux, avec les capitalistes locaux, enivrés de puissance et d'alcool de contrebande, comme à présent hérité et apprécié du royaume des bourgs. Épisode enfoui des mutilations volontaires. Ce chapitre revenu il y a peu sur l'affiche d'un palais de justice à la toge retournée ravive encore notre méfiance à l'égard de l'histoire annonnée du vainqueur, le miracle d'un langage subverti de discours, de 10 heures de grand chemin au service d'une puissance dévastatrice. Quand on raconte une épopée civilisatrice en terre conquise, c'est l'évocation d'un viol collectif par chaos. C'est ce qui impressionne d'ailleurs les quidam sans cervelle. Un peuple entier sous chicotte. Une perversion ultime. L'histoire mitonnée sous la plume d'un gardien de prison coloniale qui s'étonne lui-même en bon inquisiteur de la force prédatrice de son seigneur et maître. Souvenons-nous de cette autre date, oui, cette autre date où ces mêmes chiens de guerre, vautours affamés, sans foi ni loi, à l'uniforme bien repeint, aux couleurs du bleu-blanc-rouge, avouèrent s'être saisis d'un prince des oiseaux labellisé, un prince national, pour le déporter sur une île voisine, l'enfermant à double tour dans une cellule. au cirque de Salazie. Nous étions en 1994. On nous expliqua avec force mots et détails à l'époque que ce rapt de prince orchestré à l'ancienne, de vieilles habitudes, par l'envahisseur, depuis la lointaine République de Paris, n'avait eu lieu que pour réinsuffler un peu d'humanité en nos esprits en déroute. La communauté internationale elle-même se chargea de gâter la vue au Seigneur des inconscients pour que la puissance dévastatrice puisse se repaître sans crainte du sang des derniers affranchis du Boutre. Le saviez-vous qu'à l'origine, cette terre fut refuge d'exilés sur la route du Grand Sud ? Ils sont venus, dit-on, de tous les coins du monde. Ils ont été ces oiseaux sans papier au cœur rempli d'amertume. Ils ont été désireux de bâtir une nation sans esprit retors, sans entourloupe. C'était un rêve de lune pour une fratrie rompue au piège de l'errance. C'était sans compter sur l'esprit prédateur du dernier conquérant à servir en ces lieux. Qui eut raison de leurs expériences à part ce saligo, un être suffisant à l'œil de verre, surgi du néant des océans sur un voilier rempli de boniments, à briser nos pactes aussi, nos pactes de survie les uns après les autres. Ils étaient là, sortis du vent de l'étoile du Nord, ils étaient là, ces intrus. Ils ont voulu faire croire à nos enfants et à nos petits-enfants que nous étions issus d'ailleurs, que nous n'avions pas droit à nos terres, une fable en valant bien une autre. Et nos îles portées sur un chemin de lune où l'utopie était maîtresse des hommes n'ont pas réussi à se libérer. Nous ne sommes qu'au dernier épisode de la chair du meilleur des mondes sur un petit écran satellitaire. Et nous allons maintenant vous lire le dernier passage qui me paraissait important de ce décrit de nos morts de Seuf el-Badawi, parce qu'à la fin, il fait un genre de pastiche de la Marseillaise. Donc ça démarre pas tout de suite, mais là encore, tendez l'oreille, ça va venir. Non pas que je veuille minimiser la teneur de nos disputes passées. C'est vrai que les querelles menées tête bêche, coupe-coupe dans une main, chapelet dans l'autre, entre gens du Boutre, depuis le temps du premier homme contre les colonisateurs, ne nous a pas aidés. Mais les faits sont là, têtus aussi. Disons que je repense aux cris sourds qui s'échappent désormais d'une île à l'autre, au rythme des naufrages de Kouassa, la nuit tombée. Le chant ultime est sans ambiguïté aucune. Allons, noyés de la patrie, non, de la fratrie. Allons, noyés de la fratrie, le jour du deuil est arrivé. Sur nous souffle un vent de tyrannie, les requins sanglants sont dressés. Sanglants requins dressés, entendez-vous près de nos rivages mugir ces féroces soldats qui renversent nos boutres d'infortune. Aux armes, enfants de catins, bâtards et tortillons. Pardon, pardon, nous ne sommes rien, mais nous serons libres. Comme un rien, nous répète-t-on, vous n'êtes rien. La traîtrise des mots comme offrande au temple de l'usurpation. Et ceci n'est pas ma langue, ceci est leur langue, la leur de langue. Mon esprit est enchaîné à jamais, quand le rire finit de surprendre le tragique de nos vies. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour le décrit pour nos morts de Seuf el-Badawi. Je vous invite vivement à aller voir d'abord ses ouvrages et puis à aller voir, comme je le disais tout à l'heure, le catalogue des Vendailleurs, le catalogue de la maison d'édition Les Vendailleurs, installé à la Roque d'Anthéron et qui font part de tout un tas d'écrits revendicatifs, décolonisateurs, et revendicatif justement pour la liberté des peuples d'ailleurs et de partout. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Figurez-vous que j'ai retrouvé Cannibal pendant les vacances. Donc nous nous retrouverons la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie. À bientôt.